Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Comment attirer de nouvelles recrues? L'armée belge, comme beaucoup d'autres armées dans le monde, planche sur la question et ses responsables ressources humaines sont arrivés à la conclusion que pour embaucher, il allait falloir lâcher un peu de lest, à savoir permettre aux jeunes apprentis soldats de rentrer chez eux plus souvent, mais aussi d'avoir accès de temps en temps au Wi-Fi et aux réseaux sociaux. Des mesures qui ont provoqué l'hilarité générale dans la presse britannique, qui n'a pas tardé à traiter les militaires belges de fils à maman. Réponse de l'état-major belge au micro de Lex Milota.
Absolument pas des fils à maman, mais justement des militaires qui savent ce qu'ils doivent faire, qui connaissent leur mission et qui sont aptes au service.
Le colonel Pierre Bibert n'apprécie pas les commentaires de la presse britannique.
Le militaire belge a une très bonne réputation aussi bien dans le monde civil que dans le monde international et ça me rassure. Les missions que l'on fait, les contacts que l'on a avec les autres nations, eux ils voient en tout cas comment sont les militaires belges en général et donc là on a une très bonne réputation et c'est surtout cette image là que moi je garde.
Il est responsable formation à l'état-major des armées. Assouplir légèrement les règles de l'internat est une manière de remotiver les recrues.
Le fait de devoir s'adapter de la vie civile à la vie militaire est quand même une étape qui est difficile pour les jeunes. Et donc on essaye d'en tenir compte quand même dans la mesure du possible. Et donc ce que l'on propose et qu'on est en train d'étudier maintenant, c'est de dire, ok, ne pas devoir rentrer tous les week-ends le dimanche soir à la caserne, mais pouvoir rentrer en fait le lundi matin est une des solutions que l'on est en train d'évaluer. L'internat reste, ça c'est bien clair, parce que justement les finalités du métier militaire, je vais dire quelque part, l'imposent. Donc on doit aussi éventuellement donner la possibilité de permettre aux jeunes de s'adapter doucement, pas trop doucement non plus, mais donc en disant, ok, les deux premiers week-ends, d'avoir un week-end complet, je ne pense pas que ce soit exagéré.
La Belgique rencontre en effet, comme d'autres pays européens, des difficultés à recruter de nouveaux militaires pour son armée. Discipline, respect de l'autorité, la vie à la caserne ne fait pas forcément rêver. Boris Moranville, délégué syndical SLFP Défense.
Certaines personnes n'ont simplement pas l'habitude de vivre en groupe. Premièrement, n'ont pas l'habitude de faire des corvées le matin, n'ont pas l'habitude de se rassembler, n'ont pas l'habitude d'avoir une tenue identique à tout le monde, n'ont pas l'habitude d'avoir une discipline de corps, une discipline individuelle, de nettoyer son propre matériel. Le boulot de militaire, c'est une vocation avant tout, et il faut pas oublier le fait que c'est défendre son pays et la nation, donc c'est quelque chose qu'il faut avoir dans le cœur et on ne devient pas militaire par second choix.
15% des recrues abandonnent avant la fin de leur formation de soldat. Elles doivent alors expliquer leur décision et pour certains jeunes, c'est le manque de réseaux sociaux qui conduit à l'abandon. Le colonel Didier Calment, chef de la section recrutement et sélection.
Vous comprenez bien que ce que le Belge moyen veut avoir dans les rues, c'est pas un militaire avec un smartphone, mais c'est un militaire avec une arme. Quelque part, à un moment donné, ça coince. Au bout du compte, il faut savoir que ce soit sur un bateau, que ce soit sur un aéroport ou que ce soit sur un campement en Afghanistan, il est clair que le militaire en formation doit déjà comprendre qu'il y aura des moments dans sa carrière où il n'aura pas accès en permanence aux réseaux sociaux ou ne pourra même pas communiquer en toute ouverture avec sa famille par rapport à ce qu'il fait au quotidien.
Pour s'adapter à cette nouvelle donne, les accros aux écrans, l'armée réfléchit toutefois à une soirée par semaine dédiée aux réseaux sociaux en internat. Mais pour le délégué syndical Boris Moranville, le Wi-Fi ne fait pas le soldat.
Tous les militaires qui sont pour l'instant à la défense ont fait cette formation sans médias sociaux, sans proximité avec la famille et en internat. On dit souvent, un peu sur le ton de l'humour, il n'y a pas un arbre Wi-Fi dans la forêt. Donc ça veut dire simplement que vous n'avez peut-être pas votre connexion et surtout dans les bois. On apprend à travailler avec très peu de lumière pour ne pas être visible peut-être d'un ennemi, d'un opposant ou d'un adversaire. Donc on se voit mal le fait d'allumer son smartphone en plein milieu des bois.
Un militaire à la retraite critique ces adaptations. Au premier coup de feu, ils vont pleurer, prévoit-il. Mais ces assouplissements ne signifient pas que l'armée forme des fils à maman, se défendent les colonels. La vie en internat est toujours aussi dure et stricte, préviennent les instructeurs.
« des suspects très ordinaires. C'est sans doute ainsi qu'il faut qualifier ces citoyens de seconde classe traqués par des logiciels mis en place par des collectivités locales aux Pays-Bas. Leur tort, être potentiellement fraudeurs aux allocations sociales, une notion aussi floue que dangereuse. Bref, la question du respect de la vie privée et des données personnelles est à nouveau en débat. Les explications d'Antoine Moutot.
Selon une enquête des journalistes du quotidien NRC, plusieurs communes néerlandaises, dont Utrecht, Vlissingen et Middelburg, utilisent un algorithme pour détecter les potentiels fraudeurs aux allocations sociales. Concrètement, à partir de données personnelles de leurs administrés récoltées au fil des 25 dernières années, un logiciel profile et établit pour les mairies une liste de personnes susceptibles de s'être rendues ou de se rendre à l'avenir coupables de fraude. Le fameux logiciel se base sur 2 à 300 paramètres obtenus du service des impôts, du cadastre et d'autres organismes publics. Une fois la liste produite par l'algorithme, une équipe de la mairie concernée ouvre une enquête sur ces potentiels fraudeurs. Pour faire simple, c'est le système informatique qui désigne directement les suspects et non plus les humains, peu importe s'il n'existe aucun soupçon réel. Ces révélations ont déclenché l'inquiétude d'une partie des Néerlandais et de la classe politique. À la chambre basse du Parlement, deux députés du parti de centre libéral des SNZester et de la gauche radicale SP ont posé une question au gouvernement. En réponse, la secrétaire d'État chargée du dossier a affirmé que toutes les règles sont respectées. L'autorité nationale de contrôle des données personnelles, elle, n'a pas voulu s'exprimer sur la légitimité ou non des communes à procéder ainsi. En revanche, elle a indiqué que les mairies ont l'obligation de prévenir toute personne de leur présence dans la liste produite par l'algorithme. Seulement voilà, selon le quotidien NRC, ce système de détection des potentiels fraudeurs pourrait être remis en cause par l'entrée en vigueur fin mai d'un nouveau règlement européen sur les données personnelles.
Les promenades printanières le long de la Save, le fleuve qui coule à Belgrade, ne sont plus qu'un lointain souvenir. Des dizaines de constructions illégales ont fleuri le long de la digue et les piétons et les cyclistes commencent à protester contre cette confiscation de l'espace public. Reportage à Belgrade de Philippe Bertinchamp.
C'était un rempart de verdure contre les inondations. La digue de la Save, une promenade de 8 km en pleine nature, à deux pas de la ville. Mais durant la dernière décennie, une nouvelle faune a envahi le terrain et fini par détruire la forêt. Des résidences de week-end, les Vikenditsa, comme on les appelle ici, qui ont poussé comme des champignons. Ivica habite un chalet construit sur des pieux de béton. À cause de la crue, il faut traverser les terres inondées sur une passerelle.
Je vis ici, oui, ce n'est pas une Vikenditsa, mais ma résidence principale. Je paye les impôts à l'État, les taxes sur le terrain, l'eau et l'électricité. C'est normal, comme pour tous les citoyens de la République de Serbie et du monde.
Et c'est bien cela qui est surprenant, car selon l'article 10 de la loi sur l'eau, ces constructions sont illégales. Un chef mafieux, tristement célèbre, a pourtant bâti son château fort sur la digue. Plus en aval, les deux fils d'un ancien président de la République ont chacun leur bungalow blanc surveillé par la police. Selon la loi, les eaux sont une ressource naturelle et la propriété de la République de Serbie. Les terres riveraines constituent elles aussi un patrimoine public inaliénable. Dans ces conditions, comment les résidents ont pu obtenir un permis de bâtir? Quelle est la marche à suivre? Zoran Bugvic est membre de l'Association des cyclistes de Belgrade.
Alors on vient ici, on regarde la digue, on remarque une parcelle qui nous plairait bien. Ensuite on descend et, comme on dit en serbe, on plante son pieu. On marque le territoire de sa Vikendica et on la construit. Puis on appelle le service des eaux de la ville et on dit qu'on occupe une parcelle à tel endroit. Ils disent « Ah, très bien, vous construisez une Vikenditsa, c'est tant et tant, voilà ce que vous devez payer. »
Le prix moyen d'une parcelle est estimé à 5000 euros. De son côté, la compagnie des eaux, Beograd Vode, conclut des contrats avec des particuliers qui prétendent construire des équipements de sport, de loisirs ou de tourisme, ce qui n'est bien sûr pas le cas, car ces bâtiments devraient être ouverts au public. La digue a été construite dans les années 70, à l'époque de la Yougoslavie. Elle s'étend du pont d'Ostrojnica, en amont, jusqu'au terminus d'Etramwe, bloc 45. Le sol de la digue était fixé par les racines des arbres et un lit de mousse absorbait les eaux de la crue. Aujourd'hui, par beau temps, les dimanches et les jours fériés, la chaussée, une piste cyclable, est envahie par la circulation automobile. Veljko Popovic est un militant de Savski Nasip, la digue de la Save, un groupe informel de citoyens qui défendent l'intérêt public.
La digue a été construite pour protéger ces terres de la rivière. Pratiquement, en cas d'inondation, la digue absorbe les eaux. Il est interdit d'y circuler avec des engins motorisés car la pression finit par provoquer l'érosion de la digue et la faire céder. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de véhicules parce que les résidences sont inondées, mais d'habitude, il passe 100 à 150 voitures par heure à grande vitesse qui chasse les cyclistes et les piétons.
La digue abrite également 16 puits d'eau de la capitale, une eau naturellement filtrée par le sable et les roches sédimentaires. C'est autour d'elle que les nouveaux résidents ont construit leur habitation.
En général, c'est dangereux de construire à proximité des puits. Nous avons été informés par les résidents que les habitations ont des fosses septiques. Mais en cas d'inondation, ce qu'elles contiennent se mélange à l'eau du réseau qui alimente tout Belgrade. D'après la loi, il est interdit d'ériger des résidences près des prises d'eau. Mais là, on en compte bien 500.
Face à l'appropriation de l'espace public, la destruction de la forêt et la menace sur la qualité de l'eau, l'association Savski Nasip et celle des cyclistes de Belgrade montent au créneau. Manifestation, défilé à vélo, recours en justice. Leur banderole, stop à l'usurpation de la digue.
Ans après, mai 68 revient en force, en librairie. Et ce sont souvent les acteurs de ce printemps rebelle qui parlent et qui écrivent. En Allemagne, c'est Gretchen Klotz, la compagne de Rudi Dutschke, la figure de proue du mouvement étudiant qui s'est mise à l'ouvrage. Elle y parle de communauté, de féminisme, de la mort de son mari aussi, 10 ans après avoir été gravement blessée dans un attentat en 68. 1968, de quoi nous pouvons être fiers, c'est le titre de son livre. Notre correspondante Déborah Berlioz l'a rencontré.
J'ai écrit ce livre parce que je voulais répondre à tous ceux qui critiquent le mouvement de 1968. Je pense qu'ils ont tort. Je pense que nous avons vraiment des raisons d'être fiers et je voulais le dire.
Et qu'est-ce qui vous rend fier quand vous repensez à cette époque ?
Dans les années 50, l'Allemagne était un pays très autoritaire. On pourrait même dire qu'il était bourré de nazis. Beaucoup de postes importants étaient encore occupés par des nazis qui étaient déjà là à l'époque d'Hitler. La démocratisation de la société était simplement nécessaire. Cela marchait dans l'éducation des enfants, dans les crèches, à l'école, mais aussi parfois dans le monde du travail. Beaucoup de structures autoritaires ont été abolies.
Dans les années 60, les jeunes Allemands se sont donc révoltés contre la société de leurs parents. Vous avez rejoint leur mouvement et vous avez même épousé un de ses leaders en 1966, Rudi Dutschke. Il faisait partie des dirigeants du SDS, l'Union Socialiste Allemande des Étudiants. Cependant, ce mariage n'était pas forcément bien vu au sein des militants. Pourquoi ?
L'idée, à l'époque, était qu'il fallait briser les structures bourgeoises ou les structures autoritaires. Or, la famille traditionnelle était considérée comme quelque chose qui perpétuait ce modèle autoritaire.
En même temps, les militants de l'époque conservaient une image de la femme très traditionnelle. Comment étaient traitées les femmes au sein du syndicat étudiant ?
Au SDS, c'est surtout les hommes qui prenaient la parole. Et quand une femme disait quelque chose, il arrivait qu'on se moque d'elle. Même si moi, je trouvais que ce qu'elle disait était parfaitement raisonnable, cela m'a choquée et je trouvais cela vraiment affreux. Beaucoup de femmes faisaient juste office de jolies faire-valoir pour les hommes. Il y avait vraiment du travail à faire encore.
Comment viviez-vous votre émancipation au quotidien ?
Avec Rudi, nous en parlions beaucoup et je lui ai dit que nous devions partager les tâches ménagères. Il devait apprendre à changer les couches et il le faisait. Il le faisait même bien. Il devait aussi cuisiner. De toute façon, j'étais une mauvaise cuisinière et je n'aimais pas ça. Donc tout devait être partagé, mais il était prêt à le faire et il trouvait cela juste.
Et au sein du mouvement, comment pouviez-vous faire bouger les choses? Comment les femmes pouvaient-elles acquérir davantage de reconnaissance?
J'ai eu l'idée de fonder une commune parce que je pensais que si nous vivions dans une grande communauté, nous pourrions discuter des problèmes et changer nos comportements. Déjà, c'était un contre-modèle de la famille traditionnelle. Mais surtout, l'idée de la commune, c'était que tout le monde participe à toutes les tâches de manière équitable. Les femmes ne devaient pas être forcées d'accomplir les corvées ménagères pendant que les hommes faisaient ce qu'ils voulaient.
Die Frauen sollten nicht in die Hausarbeit gezwungen, während die Männer das machen, wozu sie vielleicht Lust hatten, nicht?
Finalement, une commune a bien vu le jour à Berlin, mais l'idée a été reprise par des hommes dont les motivations n'étaient pas vraiment féministes. Cela n'a donc pas suivi la direction que vous vouliez. Toutefois, les années 60 marquent bien le début d'un mouvement de libération des femmes. D'ailleurs, vous dites souvent que ce sont les femmes les vraies héritières du mouvement anti-autoritaire. Comment cela ?
Je pense que le mouvement anti-autoritaire a continué de se développer après 1968, et pas uniquement au sein des étudiants comme au début, mais dans des pans plus larges de la société, jusque dans les villages. Cela a été porté par le mouvement féministe. Cela s'est traduit par un changement du rôle des femmes, un changement de l'éducation des enfants. À l'inverse, les hommes ont parfois oublié les idées anti-autoritaires. Dans les années 70, beaucoup ont rejoint des groupes communiste où ces idées n'avaient pas leur place. Mais les femmes les ont sauvées.
L'extrême droite est entrée au Parlement allemand lors des dernières législatives. Est-ce un retour en arrière ?
Ils essayent de recréer une société autoritaire. Il y a toujours eu des gens avec ce genre d'idées, mais jusqu'à maintenant, personne ne les écoutait. Maintenant, ils ont l'attention des citoyens. Et nous devons clairement nous battre contre cela.
L'Islande va reprendre la pêche au rorqual commun, le deuxième plus grand mammifère marin après la baleine bleue. Une décision mal acceptée des écologistes, mais qui devrait satisfaire son principal client, le Japon. À Reykjavik, les explications de Jérémy Richard.
Le rorqual commun est le deuxième plus grand mammifère de la planète après la baleine bleue. Sa taille peut atteindre jusqu'à 25 mètres de long et son poids près de 70 tonnes. Et depuis 2 ans, cette espèce en danger n'était plus harponnée dans les eaux islandaises, au contraire de la baleine de Minck, plus petite et non menacée. En cause, des difficultés d'exportation au Japon, son plus gros marché. Deux raisons à cela, la diminution de la consommation nippone, mais surtout l'introduction de réglementations restrictives sur les importations, notamment de nouvelles normes pour mesurer les niveaux de PCB, un polluant chimique, dans la viande de baleine. Mais la bureaucratie japonaise semble s'être assouplie, selon Christian Loftson, PDG de Kvalur, l'unique société spécialisée dans la chasse au rorqual sur l'île volcanique. Ces bateaux reprendront donc la mer dès l'ouverture de la chasse, le 10 juin prochain, et joueront sur 2 tableaux. Le marché alimentaire, principalement, mais la firme va également travailler au développement de produits médicaux à base de la viande du mammifère. Objectif, lutter contre les carences nutritionnelles en fer qui concernent près de 2 milliards de personnes selon l'Organisation mondiale de la santé. Les quotas autorisent jusqu'à 161 prises cette année contre 150 en 2017. Des prises qui ne menacent pas la reproduction de l'espèce, dont la population totale approximative est estimée à 53 000 animaux dans l'Atlantique Nord, ce qui permet à la chasse de continuer. Lors de ses dernières sorties à l'été 2015, la société avait harponné un record de 155 mammifères. Sigurstein Mausson, responsable de l'antenne islandaise du Fonds international pour la protection des animaux, a fait part de sa déception, évoquant une décision non motivée par de réelles nécessités du marché et surtout nuisible à la réputation de l'Islande à l'étranger. Les Islandais soutiennent d'ailleurs de moins en moins la chasse au rorqual commun. Un sondage publié en octobre dernier par l'ONG indique qu'un peu plus de 35% y sont favorables, contre 42% en 2016.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Groslot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, et sur les réseaux sociaux. À demain.